Les podcasts du Collège de France, biologie.
Sur deux points que j'ai déjà traités la semaine dernière, mais juste histoire de faire le lien, et puis aussi pour ceux qui éventuellement n'auraient pas été présents. Donc ce dont je voudrais vous parler, toujours dans les perspectives évidemment de venir à la question de l'évolution, de continuer la question de l'évolution du système nerveux centralisé en l'occurrence maintenant, donc central puisqu'il a été centralisé, et petit à petit je m'amène vers la question de l'invention de Sapiens, en particulier des particularités du cortex de Sapiens. Donc comme je vous le disais l'autre jour, ce qui monte vers le cortex depuis les systèmes sensoriels, quels qu'ils soient, est en général, et même je crois que c'est presque une règle générale, une géométrie qui remonte depuis les systèmes sensoriels vers les systèmes thalamiques, le cortex, avec les interactions cortico-corticales, les redescentes vers le thalamus à partir du cortex, et puis les sorties qui sont soit des sorties motrices, soit des sorties de type sécrétoire. Hein. Comme je vous rappelle que, évidemment, le système nerveux est aussi une glande, ou en tout cas est associé au contrôle des glandes. Donc, l'autre point, c'est que évidemment, ces grands ensembles qui sont le cortex, le thalamus ou le système sensoriel sont compartimentés eux-mêmes, divisés en domaines, en segments, en territoires qui sont définis par des combinatoires d'expression de gènes, que ce soit des gènes de développement ou des morphogènes plus classiques, ici Sonic Hedgehog et FGF8. Et je ne sais pas si j'ai pris l'exemple la semaine dernière de ce petit domaine V3, donc ventral en position 3, ventral parce que plus proche de la midline quand on travaille dans la position livre ouvert, vous vous en souvenez, j'imagine, et bien que ce domaine V3 est soumis à deux influences, l'influence de Sonic Hedgehog et l'influence de FGF8, qui sont donc ici marqués comme deux croix, et que je peux, en jouant sur ces deux facteurs, ou avec des anticorps qui inhibent l'expression de ces facteurs, modifier l'information de position de V3 et donc modifier l'expression ou l'engagement d'un lignage cellulaire particulier qui ici est la dopamine. Donc je vous rappelle tout simplement, si je prends un V3 normal, j'ai des neurones dopaminergiques. Si je bloque Sonic Hedgehog qui est ventral, je dorsalise V3, je le transforme en D3, j'ai presque plus de dopamine. Si maintenant je prends un V2 que je mets du FGF8, je le postériorise, je le transforme en V3, donc j'ai de la dopamine. Si je prends un D2 qui est dorsal, que je mets du FGF8, je le transforme en D3, il ne fait rien. Mais si maintenant je transforme du Sonic Hedgehog, je le transforme en V3, maintenant il fait de la dopamine. Donc ces informations de position et ces sites d'expression des morphogènes sont extraordinairement importantes pour ce qui est de la définition des lignages cellulaires, des devenirs des cellules et, in fine, bien entendu, de la physiologie du système nerveux. Donc, je voudrais maintenant reprendre les choses d'un tout petit peu plus haut, si vous voulez bien, en revenant au principe de formation de ces compartiments. Donc, de leur développement, bien sûr, mais aussi de l'évolution de cette compartimentation. Et il faut savoir que ces concepts de compartiments et de frontières sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, ici, ensemble, sont nés des travaux menés chez la drosophile. Je vous renvoie ici au cours de l'année dernière, bien entendu, sur la compartimentation de ce qu'on appelle les disques imaginaux chez les mouches. Hein. Et tous les cours, d'ailleurs, sont accessibles, je crois, sur le site du collège. Hein. Pour ceux qui voudraient rattraper leur retard scolaire. C'est une tâche impossible. Mais bon, on peut toujours essayer. Je m'y essaye tous les jours. Enfin, en tout cas, dans cette période. Toujours est-il que, par exemple, dans le cas des disques imaginaux de la drosophile, c'est un disque d'aile. C'est donc un petit ensemble de cellules embryonnaires qui vont donner plus tard l'aile, avec les parties antérieures et postérieures, les parties dorsales et ventrales, c'est toujours pareil, hein, dessus, dessous, devant, derrière, et qui sont réglées par l'expression de morphogènes, dont ici DK pataplégique, qui est le BMP des mouches, et puis ici wingless, qui est l'équivalent de Wnt chez les vertébrés. Donc l'année dernière, je vous avais essayé de vous montrer comment ces différents morphogènes peuvent faire des compartiments, mais au fond, c'est plus ou moins la même chose qui se passe chez les vertébrés, avec des morphogènes qui, très souvent d'ailleurs, sont des morphogènes relativement semblables, orthologues, si vous vous souvenez, c'est-à-dire conservés à travers l'évolution. Et ces frontières dont nous parlons ont des propriétés particulières. En particulier, donc, ce sont des obstacles à la migration. C'est-à-dire que quand une cellule migre et qu'elle rencontre un bord ou une frontière, cette frontière peut empêcher de passer d'un compartiment à un autre. C'est quelque chose qui se produit fréquemment. Ce n'est pas d'ailleurs toujours le cas, et ça peut dépendre du statut mitotique de la cellule. C'est-à-dire qu'elle peut passer quand elle se divise, par exemple, et ne plus passer après avoir cessé de se diviser. Ce sont aussi des bords à la frontière, au bord desquels, à la frontière desquels ou le long desquels peuvent se développer les trajets des axones. Très souvent, vous verrez les faisceaux axonaux suivre ainsi ces bords. Et puis, ce sont aussi des zones qui font de la signalisation, c'est-à-dire qui sécrètent des facteurs, des morphogènes, qui vont aller signaler et qui, s'ils ne voient pas les bords, eux, peuvent aller faire la signalisation d'un côté comme de l'autre de ce qui est ici une frontière en apparence relativement fermée. Donc, ces centres, en tant que centres de signalisation, participent au ce qu'on appelle le patterning des tissus embryonnaires en réglant la sécrétion d'oncogènes, c'est-à-dire de molécules qui provoquent la prolifération des cellules, et de morphogènes, c'est-à-dire la morphogénèse du tissu avoisinant. Et souvent, d'ailleurs, ce sont les mêmes morphogènes qui sont des oncogènes et des morphogènes, le cas des WNT, le cas des FGF, et le cas même des homéoprotéines. Donc, je vais vous illustrer ici, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire, le cas de la frontière entre le mésencéphale et le métencéphale, que nous avons déjà discuté, mais que lequel nous allons revenir au moment de l'histoire de formation des bords. Donc là, c'est un cas assez typique d'un bord qui est à la frontière du mésencéphale et du métencéphale, qui définit l'isthme, et dans lequel vous avez l'expression de WNT ici en vert, WNT1, l'expression du FGF qui est postérieure, sonic hedgehog qui est ventral, comme je vous le disais. C'est ici que vont se développer les neurones dopaminergiques. Et ce que vous pouvez aussi voir, c'est que ce bord se constitue à l'endroit où les deux domaines d'expression de deux gènes de développement, OTX2 et GBX2, sont contigus. Hein. Donc, ce que j'ai mis avec des flèches ici, c'est les possibilités de diffusion de ces facteurs morphogénétiques, diffusion sur lesquelles nous avons aussi discuté. La distance de diffusion est toujours un point qui est un point de discussion pour les biologistes du développement. Donc, même si à première vue, si vous voulez, le plan du système nerveux des vertébrés ne semble pas avoir grand-chose à voir avec celui d'une aile de mouche, il a à voir avec le plan des invertébrés, on en a parlé la semaine dernière. Mais bon, évidemment, entre une aile de mouche et un cerveau de sapiens, il y a une différence. La découverte de la segmentation du tube nerveux et surtout de la coïncidence entre la position des bords et les domaines d'expression de ces gènes de développement a conduit à faire ce rapprochement entre deux structures à la fois très éloignées sur le plan phylogénétique, mais aussi sur le plan fonctionnel. On ne peut pas voler avec son cerveau. Au-delà de ces similitudes, les bords, évidemment, chez les vertébrés sont des centres de signalisation. Ils ne forment pas toujours, c'est un petit peu différent, ils ne forment pas toujours des obstacles à la migration. Et c'est pour ça que parler de segmentation au sens strict, c'est quelque chose d'un tout petit peu avancé. Il faut faire attention quand on parle de segmentation. Ce n'est pas tout à fait la même chose chez les vertébrés et chez les invertébrés. Donc, parlons quand même de segmentation chez les vertébrés, pour rappeler que c'était quelque chose qui était totalement interdit il y a une vingtaine d'années. Jusqu'à la redécouverte par un couple britannique, Loomsdon et Keynes, un couple de chercheurs, bien entendu, Loomsdon et Keynes en 1989, sur le cas du rhombencéphale. Si je dis redécouverte, si vous voulez, c'est parce que, fondamentalement, il y a l'idée de la segmentation chez les vertébrés, d'un plan unique entre tous les organismes, qu'ils soient invertébrés ou vertébrés, est une idée assez ancienne. Elle avait été défendue en 1822 par Geoffroy Saint-Hilaire, qui est enterré au Père Lachaise. Étienne, hein, pas Isidore, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, avait proposé ça en 1822. Mais quand je parle de redécouverte, je veux bien admettre que c'est un petit peu exagéré, car si dans un cas comme dans l'autre, 1822 et 1989, la première observation est d'ordre anatomique, ici les vertèbres, hein, chez les vertébrés, et là les renflements réguliers du rond céphale, ce qui en fait nous a convaincu de l'existence d'une véritable segmentation chez les vertébrés, c'est plutôt l'orthologie génétique, c'est-à-dire que le corrélat génétique entre l'expression de gènes qu'on a appelé les gènes OX et l'orthologie entre les gènes OX de la mouche et des vertébrés, qui permettait de penser cette orthologie non seulement sur le plan anatomique, mais aussi sur le plan génétique. Donc c'est ce corrélat entre l'anatomie et la génétique qui a permis, si vous voulez dire, d'une certaine façon, de revenir sur quelque chose qui était quand même de l'ordre de l'interdit, c'est-à-dire de penser la segmentation, que les vertébrés étaient des animaux segmentés, comme les mouches, d'une certaine façon. Donc ici, ce que je vous montre, c'est ces fameux complexes OX, qui sont très conservés entre les invertébrés et les vertébrés. Donc là, c'est le gène OX chez une drosophile, avec 3' en 5'. Bon, évidemment, vous devriez regarder le dernier article de Denis Duboul dans Development, je crois, où il remet beaucoup de ces choses en question. Mais enfin, pour l'instant, on fera comme si tout ça était encore vrai. Vous voyez que les gènes rouges sont des gènes qui sont orthologues, c'est-à-dire homologues à travers l'évolution. Au départ, un seul complexe, et puis deux divisions chromosomiques qui donnent 4 complexes tels qu'on les retrouve chez les vertébrés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez des gènes de même couleur. Donc, d'une certaine façon, c'est une preuve, entre guillemets, que nous avons un ancêtre commun avec les mouches sur le plan de l'expression de ces gènes OX. Et ce que vous pouvez voir aussi ici, sur quoi j'attire votre attention, c'est l'existence de mini-gènes qui encodent pour ce qu'on appelle des micro-ARN, micro-RNA, des MIR, qui sont eux aussi conservés à travers l'évolution, c'est-à-dire et toujours dans la même position, et qui régulent la traduction des messagers encodés par ces gènes. C'est-à-dire que c'est une régulation qui n'est plus transcriptionnelle entièrement, mais qui devient maintenant traductionnelle. Et le fait de cette régulation traductionnelle fait que, par exemple, MIR-196, ici, peut aller bloquer la traduction du OXD8, mais aussi celle de OXC8. Et en fait, la présence de ces trois micro-ARN ici fait que quand la transcription se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que dès que j'arrive, ça c'est antérieur et postérieur, la transcription se fait dans ce sens-là, c'est dès que je vais arriver dans la zone 9, c'est-à-dire OXC9 ou OXD9, eh bien je vais avoir transcrit un messager qui va me bloquer la traduction de OXD8, de OXC8, de OXB8, etc. Donc vous voyez que, comme je l'ai souvent dit dans les cours précédents, la régulation, ce n'est pas uniquement l'expression des gènes, mais c'est aussi la régulation de leur traduction. C'est une chose dont il faut toujours se souvenir, et je pense que j'ai assez insisté sur cette question, sur ce point, au cours des cours précédents. Donc les micro-ARN se fixent sur ce qu'on appelle des séquences non codantes dans les messagers, au niveau des séquences en 3' UTR en général, et vont aller soit bloquer la traduction, soit encore plus grave, entraîner la dégradation de l'ARN messager. Voilà. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que si je prends tous mes rhombomères, c'est la segmentation de mon rhombencéphale, eh bien, les différents compartiments, l'espèce de renflement, vous voyez là, qui avait fait penser à Keynes et à Lumsden qu'on retrouvait cette segmentation de type drosophile, avec des segments, comme on peut voir chez la drosophile, eh bien, ces différentes frontières correspondent à des frontières d'expression des gènes OX, et le devenir morphologique des cellules qui sont dans un compartiment est la conséquence de la combinatoire d'expression des gènes de développement, ici de la famille OX, OXA1, OXB2, OXA3, OXB3, OXB4, OXB4, exprimés dans ce compartiment, avec donc une sorte de codage, si vous voulez, de codage génétique de cette segmentation, et surtout de la détermination du devenir des cellules qui sont présentes à l'intérieur de ces segments. Alors, évidemment, quid de ce qui se passe à l'avant du ruban céphal, c'est-à-dire dans le cerveau. Donc, ce cerveau antérieur, qui est en fait le prosencéphale, donne naissance à ce qu'on appelle le télencéphale, le diencéphale et le mésencéphale. Et lui aussi, ce cerveau antérieur, présente, comme vous pouvez voir, des renflements, un petit peu comme les renflements qu'on peut voir au niveau du rhombe encéphale. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que ce antérieur est segmenté, même si cette configuration anatomique et ces constrictions provisoires dans le tube nerveux à l'avant avaient permis avait avancé cette idée qu'il y avait une segmentation du cerveau antérieur. Et je pense qu'on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Alors, plus que la segmentation antéro-postérieure, du moins la présence de compartiments de l'avant à l'arrière, il y a aussi, comme on en a parlé la semaine dernière, des compartiments dorso-ventrales. Vous voyez ici, par exemple, une frontière qui sépare ce qu'on appelle le pallium du subpallium et qui est une frontière importante dans le développement du cerveau antérieur. Donc, c'est un modèle qui a eu son heure de gloire, je dirais, dans les années 1990, le modèle du prosomérique, c'est-à-dire qu'on parle des métamères. Pour le prosencéphale, on a parlé des prosomères, c'est-à-dire des métamérie du prosencéphale. Et c'est une idée qui a été développée beaucoup par Luis Pueyes, qui était un grand anatomiste espagnol, et John Rubenstein, qui est en Californie, et leurs collègues. Donc ce modèle prosomérique a subi énormément de modifications, de nombreuses révisions, et même si on peut considérer aujourd'hui qu'il est obsolète, voire plus qu'obsolète, il a eu une réelle influence sur notre façon de penser le développement et l'évolution du cortex. Une influence tout à fait intéressante. Donc ce modèle proposait la division du cerveau, je vous le rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas nés, en 6 prosomères, de P1 à P6. Donc P1, P2 et P3, alors vous avez ici le mésencéphale. Ici, vous avez les rhombomères avec R1, R2, R3, etc. Ici, vous avez donc P1, P2, P3 qui vont vous donner les noyaux du diencéphale, dont le thalamus et l'hypothalamus. Et puis, vous avez P4, P5, P6 qui étaient censés donner le télencéphale, c'est-à-dire la région la plus antérieure, avec des segmentations qui correspondaient évidemment à des zones d'expression, des domaines serrés d'expression d'un certain nombre de gènes de développement, des gènes à homéoboîte, bien sûr, ici, mais aussi des BHLH, d'autres types de gènes. Et cette, je pense que cette diapositive, oui, que j'ai repris dans un article de 1994, illustre tout à fait la façon dont on pouvait envisager le développement prosomérique d'un cerveau chez les vertébrés à cette période. Ce n'est pas entièrement obsolète, on pense toujours un petit peu de cette façon, mais je dirais que même si c'est très intéressant, ou si ça a été très intéressant, d'un point de vue strict, les seules frontières, les seules vraies frontières là, qui n'autorisent pas le passage des cellules, sont en fait la frontière paliale-subpaliale, qui n'a rien à voir avec une segmentation antéro-postérieure. Vous avez aussi, évidemment, cette frontière ici, qui est une vraie frontière, mais qui n'a rien à voir avec le prosencéphale, puisque elle est entre le tectum, qui est du mésencéphale, et le cervelet. Donc, en fait, c'est une frontière qui est en dehors de ce qu'on appelle, au sens strict, le cerveau antérieur. Vous avez aussi une autre frontière qu'on appelle la zona limitans intratalamica, qui est ici, vous voyez ici, mais qui, elle-même, est un petit territoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Lumsden, ce n'est pas vraiment une frontière, c'est un compartiment en lui-même. Et prétend même que l'isthme serait un compartiment. Et ça, c'est la frontière, une frontière entre le diencéphale et le mésencéphale. Donc, en fait, cette segmentation du cerveau antérieur, comme vous pouvez voir, peut-être sur le plan de la définition stricte de ce qu'on appelle un compartiment, c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui remis en question. Quant ces frontières restent partiellement des obstacles à la migration, même si ce n'est pas absolument des frontières totalement étanches. Mais ce qui est certain, c'est que sont des centres de signalisation. Hein, et ça, c'est très important. Ici, vous avez un centre important de signalisation avec une signalisation par hedgehog. Ici, vous avez un centre très important de signalisation avec une signalisation WNT et FGF8. Et puis, il y a une autre frontière que vous ne voyez pas parce qu'elle est tout à fait à l'intérieur du cerveau. C'est la frontière antérieure, la plus antérieure, qui est aussi un centre important de signalisation dès lors qu'il s'agit d'étudier le développement du système nerveux. Cette partie antérieure s'appelle l'antérieur neural border, ANB, et c'est la zone la plus antérieure du système nerveux. Alors, elle sécrète beaucoup de facteurs, en particulier des facteurs qui sont des anti-WNT, c'est-à-dire qui bloquent l'action de WNT, et puis des FGF, en particulier, je crois, le FGF8, si mes souvenirs sont exacts. Donc, les anti-WNT, ça peut être des molécules qui bloquent WNT, et en particulier des récepteurs solubles pour WNT, c'est-à-dire que si je sécrète une molécule qui est un récepteur de WNT, mais qui est soluble, qui n'est plus ancrée dans la membrane, alors à ce moment-là, je ne peux plus avoir de signalisation. C'est un petit peu le coup du BMP tronqué à l'intérieur, vous vous rappelez, pour la transformation de l'ectoderme non oral en ectoderme neural dans la manip de Melton. Hein. Donc, aussi une diapositive que j'ai adaptée à partir du papier de Lubzen. Vous voyez, tout à l'intérieur du système nerveux, donc l'ANB, hein, lineage restriction, bon ça c'est évidemment difficile à dire, mais il y a des morphogènes qui sont sécrétés à partir de cette région très antérieure. Ici, c'est la paliale, subpaliale boundary, c'est-à-dire que maintenant c'est dorso-ventral. Il y a des restrictions de lignage là, mais personne n'a encore trouvé de molécules qui diffuseraient ici et qui seraient de nature morphogénétique pour ces deux régions. Pour la séparation entre le diencéphale et le télencéphale, il n'y a pas de restriction de lignage. Il n'y a pas de facteur de morphogénèse qui a été identifié à ma connaissance. Ça, c'est la zone limitance intrathalamica, dont je vous ai parlé, qui, elle, est une barrière de lignage et qui sécrète un certain nombre de facteurs, en particulier Sonic et Jog, mais peut-être des WNT et des FGF. Ici, la frontière entre le diencéphale et le mésencéphale, qui est une restriction de lignage, mais dans laquelle on n'a pas trouvé de molécule signalisante, et puis la fameuse barrière entre le mésencéphale et le télencéphale, et le rhombencéphale, le midbrain highbrain barrière, l'ISM, dans lequel vous avez à la fois une restriction de lignage et puis l'expression de différents facteurs, WNT, je n'ai pas mis le FGF8, mais vous pouvez rajouter vous-même. D'ailleurs, WNT qui lui-même subit des modifications d'expression, d'abord exprimé de façon très très large dans le mésencéphale, dans la partie antérieure, il finit par se restreindre dans une zone très précise qui est la région antérieure de l'isthme. Ici, vous avez le rhombencéphale. Et puis, de l'autre côté de cet isthme, vous avez la synthèse de FGF8. Donc, vous avez ces deux facteurs de transcription, facteurs de croissance qui sont exprimés là. Vous avez aussi une partie dorsale ici qui exprime WNT. Donc, voilà quoi. Un système qui est descriptif en l'occurrence ici. Donc, par contre, ce que je trouve assez remarquable, hein, c'est que la plupart de ces bords, hein, qu'on les appelle véritablement des frontières ou des, ce qui vous ferait plaisir, mais ce sont quand même des bords. On va les appeler bords, c'est un terme beaucoup plus général pour ça. Se situent le plus souvent dans des part et d'autre de ces bords, vous avez un domaine d'expression d'un gène de développement. Hein. Et là, je vous ai mis un petit peu ceux auxquels on peut penser. Donc, j'y suis. Ici, vous avez OTX2, GBX2, qui sont exprimés de part et d'autre de l'isthme. Ici, au part et d'autre de la frontière diencéphale, mésencéphale, vous avez NGREL et PAX6. Ici, de part et d'autre de la zona limitance intrathalamica, vous avez Iroquois-3 et SIX3. Et puis ici, de part et d'autre de PSB, vous avez GSH2 et PAX6. Donc, c'est quelque chose de tout à fait presque général, je dirais, d'avoir la détermination de ces bords comme zone, en fait, où aboutissent les zones d'expression de gènes de développement. Et une chose encore plus étonnante, si vous voulez, qui vous prépare à une hypothèse qui m'est chère, c'est que dans chacun de ces cas, ces gènes sont auto-activateurs, c'est-à-dire que, par exemple, GBX2 active l'expression de GBX2 et OTX2 celle de OTX2, mais qui sont des inhibiteurs réciproques. C'est-à-dire que GBX2 inhibe OTX2, OTX2 inhibe GBX2, par exemple. Donc ça, c'est aussi un cas relativement général. Et maintenant, ça m'amène à vous montrer ici ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces deux gènes qui sont de part et d'autre d'une frontière. Ces deux gènes sont auto-activateurs, c'est-à-dire qu'ils s'auto-activent au niveau transcriptionnel, mais ils sont des inhibiteurs réciproques. Ils s'inhibent réciproquement quand ils sont exprimés dans la même cellule. Donc, l'hypothèse sur laquelle nous travaillons et que, sur laquelle je reviens de temps en temps, mais c'est sur quoi je vais conclure plus ou moins aujourd'hui, en insistant sur le fait que ça reste pour nous un modèle, bien entendu, c'est que ces facteurs de transcription eux-mêmes sont des morphogènes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité morphogénétique non pas seulement intracellulaire, mais aussi extracellulaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir des cellules pour avoir une action morphogénétique. Et quand vous regardez ce système-là, pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu lu, vous voyez que c'est un système qui est extrêmement proche du système qui a été proposé par Turing en 1952 dans sa définition des morphogènes. Donc, je reviens donc. Je ne dirais pas mes moutons, mais je reviens à mon propos principal. Donc, au tout début, alors là, autre chose aussi, c'est que ces morphogènes, évidemment, enfin, ces homoprotéines sont eux-mêmes, évidemment, sous le contrôle d'autres morphogènes. Vous voyez ici, par exemple, de part et d'autre de MHB, de l'ISM, ou de part et d'autre de la zona limitans intratalamica, vous avez WNT1, par exemple, qui va activer GBX2, mais réprimer OTX2. Ou vous allez avoir WNT1 qui va activer Iroquois, 3 et inhibé 6-3. Donc, ce sont toujours des boucles, puisque ces homéoprotéines eux-mêmes, à la fois, je pense, reste à démontrer, sont des morphogènes, mais en même temps, sont capables de réguler au niveau transcriptionnel, ce que aussi, dans la cellule même, l'expression d'autres morphogènes. D'autres morphogènes, par exemple, des molécules que vous connaissez bien, comme les éphrines et les récepteurs aux éphrines, qu'on appelle des EPH, qui permettent une signalisation entre deux types cellulaires et aussi des modifications morphologiques par la régulation de l'activité du cytosquelette via l'activation ou l'inactivation de petites protéines G de la famille des RO, RAC, SDC42, pour ceux que cela intéresse. Donc on peut dire que enfin, quand je dis les éphrines, il n'y a pas que les éphrines. Il y a aussi d'autres molécules qui sont classiques, dont on a parlé plusieurs fois, et aussi l'année dernière, Notch. Par exemple, Notch et Delta, qui sont aussi des morphogènes locaux au niveau intercellulaire. Et ce sont ces nombreuses molécules qui, de cette façon, font obstacle, pas total, mais obstacle, en tout cas, un peu à la migration. Et qui sont, par exemple, si je prends les éphrines ici, telles qu'elles sont régulées par l'expression, et leurs récepteurs, telles qu'elles sont régulées par l'expression des gènes de développement, ce sont des molécules qui ont été impliquées dans la migration des axones, dans la migration des cellules endothéliales, du système vasculaire. Donc, des molécules qui sont impliquées essentiellement dans des répulsions qu'on peut dire des répulsions de type de contact, en gros, quelque chose comme ça. Donc, je fais un contact, et si j'ai une trop grande signalisation ici, en fait, je vais dépolymériser mon cytosquelette et puis je vais avoir des cellules qui vont arrêter de bouger à la surface. Ces bords, ces frontières, agissent, ces molécules qui sont au bord ou aux frontières, agissent à différentes périodes du développement, mais aussi chez l'adulte. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le développement se poursuit chez l'adulte, mais aussi les mêmes molécules sont recrutées chez l'adulte pour réguler des processus physiologiques. Par exemple, WNT, dont on a parlé souvent comme vraiment un morphogène extraordinairement précoce, WNT est impliqué dans l'activité synaptique. Elle peut passer du pré au post-synaptique et du post au pré-synaptique avec à chaque fois une activité différente. Mais ce ne sont pas des modes de signalisation qui sont entièrement restreints à la période développementale. Donc, j'ai passé à des données fonctionnelles qui vont me permettre de développer pas mal de certaines hypothèses, y compris les nôtres. Mais j'ai d'abord apporté quelques informations supplémentaires sur la formation des patrons, en particulier des patients dorso-ventraux, parce que ça va m'être nécessaire, si vous voulez, pour tracer des apparentements évolutifs avec les arthropodes. Alors d'abord, de quels neurones sont composés le cortex ? Le cortex est composé de plusieurs types de neurones, mais essentiellement de deux grandes catégories de neurones, qui sont des neurones de type glutamatergique, qui sont donc des excitateurs, c'est l'accélérateur, si vous voulez. Et ces grands, 80% des neurones du cortex sont exprimés, sont glutamatergiques. Ils sont générés dans ce qu'on appelle la zone ventriculaire ou la zone subventriculaire, vous pouvez voir ici. Et puis vous avez des interneurones, alors ça c'est la frontière entre le pallium et le subpallium, et vous avez des neurones qui sont des neurones GABAergiques, essentiellement inhibiteurs, ce que ci c'est le frein, et ces neurones GABAergiques, qui sont 20% des neurones du cortex, sont générés dans ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires médianes, médianes ou latérales ou caudales. Donc, et qui vont aller migrer, alors de façon qu'on dit tangentielle, vers le pallium et s'insérer ici dans le cortex. Donc, vous avez une population de cellules qui est vraiment corticale et une population de cellules qui est d'origine non corticale. Bon, chez Sapiens, c'est un tout petit peu différent, j'y reviendrai plus tard. Donc, ça, c'est l'essentiel des cellules que vous avez. Et vous avez ici, dans la zone dorsale, vous avez donc ici le cortex. Et puis ici, vous avez la midline, la partie midline dorsale, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, mais qui va vous donner ce qu'on appelle l'ourlet cortical, et puis essentiellement aussi le plexus choroïde, qui est une structure qui est probablement plus importante qu'on avait pu le penser, dont je vous ai déjà également parlé l'année dernière. Donc, ces neurones GABAergiques inhibiteurs migrent donc, et cette migration est un point important. C'est un phénomène tardif sur lequel je reviendrai peut-être avant la fin de l'année, peut-être pas si je n'ai pas le temps, parce que en fait, j'ai préparé trop de matériel pour les 9 heures que nous avons à passer ensemble. Donc, ça souligne quand même l'importance de ces divisions en territoires, puisque, comme vous voyez ici, ce territoire-là ne va pas générer les mêmes types de cellules qu'il y a ici. Et vous voyez qu'ici, je vais quand même passer un bord quand je vais aller migrer depuis mes éminences ganglionnaires vers mon devenir futur, vers mon lieu de fixation future, qui est le cortex. Voilà. Donc, là, on va se concentrer un petit peu sur ce qui se passe très tôt au cours du développement, c'est-à-dire chez la souris entre le 8,5e jour et le 11e jour après la conception. Le télencéphale se forme à partir du prosencéphale. Donc, la formation du télencéphale se fait vers E8,5. Vous voyez ici, ça, c'est la présentation en open book. Vous vous rappelez, j'ai mon tube nerveux, je coupe en haut, je fais comme ça. Donc, ce qui est dorsal est ici. Et ce qui est ventral est là. Donc, ce que vous avez ici, donc, cette présentation en livre ouvert, à l'avant, vers E8,5, et vous avez l'expression d'un gène de développement, qui est un gène de la famille des ce qu'on appelle les Wingelix ou Forkhead, qui s'appelle FOXG1. Et cette expression est probablement la première expression de gène de développement au moment du développement du neuroépithélium. Alors, à ce stade, même si ça vous paraît étrange, à ce stade, le cerveau, c'est une seule couche de cellules. C'est-à-dire que c'est un neuroépithélium avec une couche de cellules toute simple, extrêmement limitée, donc. Et dès l'expression de FOXG1, le télencéphale se divise en sous-régions, déjà. Une région antérieure et latérale, que vous voyez ici en marron, et qui exprime un autre facteur de transcription, inhibiteur en l'occurrence, qui s'appelle GLI3. Vous avez ici l'expression des FGF qui est induite par FOXG1 à l'avant. Ici, vous avez Sonic et Jog, qui est donc la partie ventrale. Et puis, le télencéphale. Donc, vous avez cette séparation. La partie antérieure et latérale va donner le néocortex, antérieure et latérale, donc par ici, et la partie la région postérieure et médiane, c'est-à-dire postérieure derrière et médiane au centre, va donner l'hippocampe. Mais là, nous sommes dans le cortex, c'est-à-dire dans les régions dorsales, dans le néocortex. Donc l'ourlet cortical est-elle une structure transitoire qui se place entre, je ne l'ai pas tout à l'heure, qui se place entre l'hippocampe et le plexus choroïde. Et c'est une structure qui a une action morphogénétique importante sur le développement de l'hippocampe dans le développement du cerveau. Donc, le télencéphale ventral, hein, que vous voyez ici, va se diviser très vite en trois parties. Hein. Vous allez avoir donc cette partie ici supérieure, et puis ici, vous avez une partie que j'ai mis un petit peu en bleu et vert, qui sont des zones d'expression gradient de deux gènes de développement qui s'appellent EMX2 et PAX6. Et ici, vous allez avoir évidemment ce qu'on appelle les imminences ganglionnaires, qui sont marquées par l'expression de GSH2 et de NKX2.1. C'est exactement les mêmes gènes de développement dont nous avons parlé quand on a parlé de la mouche il y a déjà, je crois, deux séances. Hein. Donc, pour vous donner une petite idée des devenirs de ces différents endroits, différentes régions, le télencéphale ventral qui se divise donc en une région médiane, la MGE, et deux régions latérales et caudales, LGE et CGE, qui sont donc les éminences ganglionnaires dont on a parlé il y a un instant. Et ça donne ce qu'on appelle les ganglions de la base, pour les physiologistes, les structures limbiques qui sont associées aux ganglions de la base, comme les noyaux de l'amygdale et le noyau accumbens. La MGE produit aussi des neurones GABAergiques à somatostatine ou à parvalbumine, et les interneurones NPY des ganglions de la base et du cortex. Quant à la CGE, elle produit, elle, les interneurones à calrétinine et VIP. Et les éminences ganglionnaires, la CGE, c'est-à-dire la caudale, l'éminence ganglionnaire caudale, et la latérale produit les interneurones du bulbe olfactif, plus des neurones des projections inhibitrices du striatum et des aires limbiques. Donc tout ça est assez compliqué, mais ça vous montre que le message, si vous voulez, c'est que ces premières compartimentations dorso-ventrales dans le télencéphale ont des importances, une grande importance quant au type de cellules qui va être généré et qui va aller peupler et constituer ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que vous appelez, ce que nous appelons tous notre cerveau. Donc, cette diapositive, alors ici, voilà votre télencéphale dorsal. Hein, vous avez ici le néocortex. Et puis, dans cette région, vous aurez aussi l'hippocampe, ce que j'appelle le relais cortical, et le plexus choroïde. Et de nouveau, ici, vous avez un système de frontières intéressant qui est lié à deux gènes de développement, qu'on appelle LHX2 et LHX5. LHX5 inhibe LHX2, LHX2 inhibe LHX5, mais si vous délétez l'un ou l'autre, alors vous allez étendre votre relais cortical, votre plexus choroïde, aux dépens de votre cortex, ou le contraire, augmenter la taille du cortex aux dépens des structures dorsales que sont le relais cortical et le plexus choroïde. Donc ici, je vous ai repris le télencéphale ventral, ce coup-ci, avec le pallium, hein, qui exprime PAX6, et le subpallium, où vous avez l'éminence ganglionnaire, dont on vient de parler, latérale, caudale et médiane, qui, elles, sont des sites d'expression de ce gène de développement GSH2. Donc, vous voyez que toutes ces combinatoires d'expression de gènes de développement vous définissent des territoires, vous définissent, par leur combinatoire, des types de cellules qui vont aller, évidemment, qui sont caractéristiques des différents endroits où elles sont générées si elles restent sur place, ce qui est le cas en particulier des neurones glutamatergiques du cortex, du pallium, mais aussi qui peuvent aller migrer en des lieux particuliers, comme c'est le cas des neurones GABAergiques générés dans les éminences ganglionnaires. Donc, ce jeu de gènes de développement, je vous montre ici par exemple un exemple, mais ce n'est pas même de regarder de trop près ces combinatoires, c'est juste pour vous montrer qu'à ces combinatoires d'expression, deux facteurs morphogénétiques classiques comme les WNT, les BMP, ou Sonic et Jog, ou FGF, entraînent l'expression de gènes de développement, GLI3, FOX, PAX, etc., et que les interactions entre ces gènes de développement vont vous déterminer des bords, que ces bords, évidemment, sont à l'origine du développement séparé, compartimenté, de différentes régions du système nerveux. Et au cours de l'évolution, vous imaginez que si vous allez modifier le placement d'un bord ou la taille d'un compartiment, eh bien, ce sera le plus souvent parce que, au cours de l'évolution, vous avez modifié un élément quelconque ou plusieurs éléments de ces chaînes ici qui finalement se traduisent par des sous-divisions anatomiques et des sous-divisions aussi de détermination de lignage au niveau cellulaire. Donc ici, je vais vous donner un modèle extrêmement simple hein, qui serait presque une loi, je dirais presque une loi générale, hein, telle que je veux simplifier maintenant le système, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au fond, hein, c'est que vous avez plusieurs morphogènes, hein, par exemple ici deux morphogènes, un morphogène A et un morphogène B, que ce morphogène A va induire l'expression d'un gène de développement, ici je l'ai appelé HA comme homéoprotéine A, ici morphogène B, homéoprotéine B, et que dans le schéma le plus fréquent, vous avez une autoactivation de ces deux homéoprotéines et vous avez des émissions réciproques entre ces deux-là. Et le résultat, si vous voulez, c'est que quand les deux sont exprimés de façon conjointe dans une certaine région, eh bien, ce qui doit se passer normalement, c'est que s'ils sont auto-activateurs et réciproquement inhibiteurs, dès que vous avez une certaine différence de concentration, un certain seuil, comme A active A et inhibe B, si A passe un seuil de différence avec B, tout d'un coup, B va s'éteindre complètement, parce que A va aller complètement éteindre B et prendre le dessus. Donc, c'est comme ça que vous allez après avoir des régions dans lesquelles vous aurez soit tout A, soit tout B, c'est ce qu'on dit « the winner takes all », hein. Et quand le winner takes all, et bien évidemment, vous avez un bord qui se forme. Et ce bord peut être plus ou moins variable. Et c'est là que la question devient un tout petit peu angoissante. C'est-à-dire que si vous n'avez que ce système-là, bien entendu, à ce niveau-là, vous allez avoir une variation dans la position du bord. Parce que celui-ci, une fluctuation de l'expression du gène, on ne sait jamais quel est celui qui va atteindre le seuil où il éteint l'autre le premier. Donc si vous n'avez que deux facteurs comme ça, il est évident que votre bord va être un bord imprécis. Alors vous me direz, c'est peut-être pas très grave, j'en sais rien, mais il se trouve qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui sont en amont et en aval. On a parlé tout à l'heure des éphrides, on a parlé de Notch Delta, qui probablement ajoutent de la robustesse, ce qu'on appelle de la robustesse à notre système. Donc c'est un schéma ultra simple, hein, bien entendu, et je pense qu'il correspond, je vous le propose en tout cas, un grand nombre des situations rencontrées qui vous ont pu vous paraître un petit peu complexes dans les 10 minutes qui ont précédé. Et ces deux facteurs de transcription ici, bien entendu, comme je vous l'ai dit, peuvent être transitoirement exprimés dans les mêmes cellules. D'ailleurs, ça a été démontré, par exemple, au TX2-GBX2. Ça pourrait être au TX2-GBX2. Le groupe de Salvador Martinez a démontré qu'au cours du développement, on peut trouver au TX2-GBX2 dans les mêmes cellules, au niveau de ce qui va devenir l'isthme, hein, la frontière entre le midbrain et le hindbrain. Donc, sauf élément de régulation supplémentaire qui ajoutera de la robustesse au système, j'ai un bord qui se fait, mais avec une certaine variabilité liée à la fluctuation. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Bien entendu, nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Donc, je sais cependant, maintenant je vais revenir au cours précédent, hein, je sais d'après le cours précédent que fondamentalement, nous avons admis, nous en tout cas, et nous l'avons admis avec des auteurs excellents, hein, d'excellents auteurs, que pour le tube nerveux, l'invention d'un deuxième morphogène, pour ce qui est du dorsal ventral, répond à un agrandissement de la structure. Vous vous rappelez, je vous disais, au départ, en fait, on peut faire de la compartimentation dans le système nerveux sans avoir forcément un deuxième morphogène ici. C'est au moment où on avait agrandi le système nerveux que la nécessité de mettre un deuxième morphogène dans le sens inverse s'est faite sentir. Vous vous rappelez, on a discuté ça lundi dernier. Donc, si je n'ai qu'un seul morphogène, comment mon schéma précédent, qui repose sur l'idée qu'il y a deux morphogènes antagonistes, peut fonctionner, hein? Donc là, je n'ai plus qu'un seul morphogène. Comment ça va fonctionner? Donc, supposons ici que BMP c'est A, simplement, hein, on ne va pas se fatiguer. Je vais donc imaginer que le gradient de A, hein, de BMP, se traduit par l'expression d'homéogène A1, A2 et A3 que je vais appeler la classe A. Hein, pourquoi pas? J'aurais pu les appeler classe 1 pour les spécialistes, mais je les ai appelés classe A ou classe 2, mais je vais appeler classe A. Comme dans le modèle du drapeau français de Louis Volpert, dont on a aussi parlé souvent l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fonction de la concentration de mon morphogène, mes groupes de cellules vont synthétiser A1, A2 ou A3, par exemple, et j'aurai des bords parce que c'est des effets seuil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, toutes mes cellules vont cesser d'être bleues pour devenir blanches ou cesser d'être blanches pour devenir rouges, d'où le modèle du drapeau français. Donc, ce n'est pas un système, c'est une la diffusion du morphogène est continue, c'est-à-dire que j'ai un gradient continu du morphogène, mais la réponse du tissu est discontinue à cause des effets seuils qui font que je vais avoir trois gènes de développement différents qui vont ici être exprimés. Et donc, je vais me retrouver avec un système comme ça. Vous voyez, j'ai mon morphogène, j'ai A1, A2 et A3, et je vais vous proposer que A1, A2 et A3 sont auto-activateurs, mais inhibiteurs réciproques. Et je n'ai pas besoin d'un deuxième morphogène à ce cas-là, pour de nouveau, évidemment, à condition que tous les impairs soient activateurs, et que tous les impairs inhibent les pairs et que tous les pairs inhibent les impairs, je n'ai pas besoin d'avoir un deuxième morphogène pour finir avec un système où j'ai des bords, si j'admets de nouveau que les pairs actives inhibent les impairs et les impairs inhibent les pairs dans mon système. Alors évidemment, ça peut aussi fonctionner maintenant si j'ai deux morphogènes, hein, parce que je peux mettre un deuxième morphogène en dessous qui va diffuser dans l'autre sens et qui va me faire les classes B, hein, on pourrait les appeler les classes 2 si vous voulez, mais les classes B, et de nouveau ici, je vais avoir des bords, à condition évidemment que j'ai ce système dans lequel je vais avoir une inhibition, c'est-à-dire que si je veux avoir un bord net, hein, sinon je pourrais avoir un bord flou, mais je n'ai pas envie d'avoir un bord flou, j'ai envie d'avoir un bord net. Hein, donc, d'abord, les bords sont en général assez nets dans le système, pour ceux d'entre vous qui ont fait des étudier l'expression de ces gènes. Donc, au fond, on n'a pas besoin d'avoir, ce que je veux dire, on n'a pas besoin, si on a un système suffisamment petit, on n'a pas besoin d'avoir deux morphogènes pour créer du patterning. Il suffit d'avoir un seul morphogène, mais d'ajouter une hypothèse complémentaire qui est celle que je vous propose ici et qui est celle qui me plaît, bien entendu, sinon je ne vous la proposerai pas. Hein. Donc, bon, de nouveau, avant d'explorer ce modèle un tout petit peu plus avant, je vous rappellerai que l'expression d'homéogènes ou d'autres gènes développants, il n'y a pas que, hein, d'autres gènes développants, ne suffit pas pour former les bords. Hein. Ce n'est jamais que des marqueurs à ce stade-là. Pour former un bord, il faut autre chose, il faut qu'il y ait des cibles de ces homéogènes qui font le travail de faire un bord. Bon, je vous ai parlé des éphrines un peu plus tôt, des éphrines et des EPH, qui sont des molécules qui sont des effecteurs du bord, mais il y a aussi d'autres effecteurs, par exemple des molécules d'adhésion, les NCAM, les cadérines, le système Notch Delta, on en a parlé, qui sont des cibles de ces facteurs de transcription qui font que ce bord se matérialise par une vraie frontière. Hein, Donc, si on réfléchit un peu à la question, la nature de ces facteurs, qui sont toutes, même les molécules d'adhésion, des molécules de signalisation, fait que le bord n'est pas un organe mort. Hein. Il faut comprendre que les bords, c'est au bord que ça se passe. C'est-à-dire que le bord, ça bouge toujours. C'est un truc extraordinairement dynamique, un bord. Et je pense que c'est là, en fait, que tout se passe. Donc, il se passe même plus parce qu'il se trouve que dans notre laboratoire, nous avons démontré que les homéoprotéines elles-mêmes sont capables de passer entre les cellules, de transduire un signal justement au bord, hein, ici, entre A2 et A3, et A2 et A3 ou A1 et A2, etc. Et cette notion de bord, j'aimerais vous proposer de l'étendre au-delà de ce qui se passe très tôt au cours du développement, de l'étendre à des périodes beaucoup plus tardives. Hein. Par exemple, on peut considérer qu'une synapse, c'est un bord. Hein. Après tout, une synapse, c'est un bord entre deux cellules, entre la cellule qui fait son axone, qui va synapser sur une cellule, et c'est un bord. Et à ce niveau-là, il doit se passer la même chose, des choses semblables à ce qui se passe entre ces bords très tôt au cours du développement, c'est-à-dire que ce sont des bords actifs, les synapses ne sont pas non plus des bords morts, au niveau desquels s'échangent non seulement des neurotransmetteurs, mais aussi des molécules de type morphogénétique, hein, les WNT, comme je l'ai dit, s'échangent à ce niveau-là. Et je pense personnellement que les facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines s'échangent aussi à ce niveau-là et jouent un rôle important dans la physiologie de la synapse. Donc, la synapse, comme je vous dis, est pour moi un bord parmi d'autres, qui n'est un bord pas mort, en tout cas pour la plupart d'entre nous ici, enfin, j'espère. Hein. Alors ça n'a pas ce n'est pas sans conséquence, si vous voulez, sur l'évolution elle-même. Parce que ces homéoprotéines, si notre théorie est exacte, sont exprimées chez tous les multicellulaires, dès le début, et sont donc, en ce que très probablement, je le pense en tout cas, c'est l'hypothèse que je forme, les plus anciennes des molécules de signalisation. Alors certes, d'une signalisation pas très robuste, hein, puisque la robustesse a résulté après, dans l'idée que je me fais de la chose, de l'invention d'autres molécules plus classiques. Mais si je dis que c'était les premières, c'est parce que dès le départ, il fallait bien qu'il y ait un avant et un derrière et un dessus et un dessous, dès qu'il y a deux cellules, j'en ai déjà parlé. Et en même temps, ces facteurs de transcription ont des propriétés, quand elles passent, extrêmement simples. Par exemple, ici, je vous montre que nous pensons, par exemple, qu'elles régulent l'expression de l'ATP, qui est aussi était forcément là dès le départ, en agissant sur la traduction de messagers qui permettent l'activité mitochondriale. Et par là, peuvent tout de suite modifier l'état du cytosquelette ou l'état des molécules d'adhésion à la surface, sans qu'on ait besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Donc un système extraordinairement parcimonieux, même si, bien entendu, j'admets volontiers qu'il a fallu en rajouter. Donc ici, ce que j'ai mis, c'est qu'un modèle, l'homéoprotéine A entraîne A, B entraîne B, et en effet totalement cell autonome, c'est-à-dire que ces facteurs de transcription restent là où ils sont, mais encodent des facteurs qui interagissent pour eux, de toute façon, qui sont le bras armé du facteur de transcription. Mais on peut aussi imaginer qu'en plus de ces cibles, par exemple les éphrines ou les EPH, vous avez une action directe de l'homéoprotéine. Et que très tôt au cours de l'évolution, au fond, ces molécules-là, petit A et petit B, n'avaient pas encore été inventées, et que c'est par des molécules, des systèmes beaucoup plus ubiquistes, ubiquitaires, beaucoup moins différenciés, par exemple la synthèse ATP, que ça pouvait fonctionner. Et dès le début, évidemment, il fallait du cytosquelette. Alors évidemment, ça nous ramène au début du cours, quand je vous ai parlé de la conjugaison chez les unicellulaires. C'est-à-dire que je pense que ce sont les premières molécules de signalisation et il n'est pas impossible qu'elles aient été là avant même l'invention de la multicellularité, c'est-à-dire dans les étapes très transitoires d'interaction cellulaire qui s'appelle l'interaction entre les gamètes. Et si vous vous rappelez un petit peu ce que j'ai raconté tout au début avec les algues vertes, voilà ici vous avez deux algues, vous avez ici la fécondation entre les deux algues. Mais à ce moment-là, il y a une très très forte expression d'une homéoprotéine à ce niveau-là. On ne sait pas ce qu'elle devient. J'aimerais bien, moi, qu'elle passe dans la cellule d'à côté, c'est ce que je vous propose. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces flagelles, qui sont du cytosquelette, deviennent très très riches en ce moment-là une glycoprotéine qui permet l'adhésion entre les flagelles, ce qui me ramène un tout petit peu à ce système-là, c'est-à-dire que ces phénomènes d'adhésion et de polymérisation du cytosquelette pourraient être sous le contrôle de ces gènes de développement dans quelque chose qui est, d'une certaine façon, le prototype le plus ancien d'un organisme multicellulaire, c'est-à-dire deux cellules qui s'accolent et qui, évidemment, je trouve ça pas inintéressant de penser que c'est la sexualité, ou si vous préférez, la reproduction sexuée, qui est à l'origine de la pluridisciplinarité, de la multicellularité, la reproduction sexuée, puisque ces organismes, contrairement à nous, n'ont pas encore inventé la séparation entre sexualité et reproduction. Tant pis pour elles. Donc maintenant, je vais revenir à un modèle un tout petit peu plus classique. Alors, un tout petit peu plus classique, bien entendu, qui est, pour revenir ensuite vers le système moins classique qui reste le fond de sauce de travaux faits dans notre laboratoire. Donc cette diapositive ici, là cette partie-là en tout cas, vous montre deux situations. Vous avez une situation dans laquelle, au départ, vous avez cette première compartimentation entre une région dorsale, GLI3, et puis une région ventrale. Et puis ensuite, vous avez une séparation ici entre des domaines qui sont assez nets. Vous voyez ici NKX2.2, GHH2. Puis ce domaine ici, vous avez des gradients de MX2 et de PAX6 qui se mélangent un tout petit peu au centre. Donc cette situation où il y a des zones pures, pour ainsi dire, et puis des zones dans lesquelles c'est un tout petit peu brouillon, évidemment, celui-là va se transformer en ça, c'est-à-dire que ce sont des systèmes extrêmement dynamiques. Mais ce que j'aimerais discuter maintenant, c'est comment, en fait, à partir d'un système où j'ai une sorte de recouvrement entre mes deux facteurs de transcription, je vais arriver à faire un bord entre les deux. Et les conséquences que ça a, évidemment, au niveau de la formation des territoires dans le système nerveux. Alors, ça, c'est un travail que je prends à partir de l'article de O'Leary de 2007. O'Leary, c'est un laboratoire, enfin, son laboratoire, qui est en Californie, a énormément travaillé sur la compartimentation du système nerveux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a 6 couches dans un système, et toutes les couches n'ont pas les bords au même endroit. Mais on va faire comme si elles avaient les bords au même endroit, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la période la plus précoce de la formation des compartiments. Hein. Donc, ce que nous avons ici, c'est au niveau de la zone ventriculaire, c'est-à-dire la plus proche du ventricule, vous avez ici deux gradients, un gradient de PAX6, un gradient de MX2, avec une zone très légère de recouvrement. Et puis, vous avez aussi un gradient de SP8 et un facteur de transcription qui est en fait un récepteur orphelin présent qui ne connaît pas l'agoniste. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc, ce que je veux vous signaler, c'est que chez tous les vertébrés, chez tous les mammifères en tout cas, pas chez tous les vertébrés, mais chez tous les mammifères, le cortex est divisé en plusieurs zones. Il y a 4 zones qui sont conservées chez tous les mammifères. Hein. Vous avez un domaine moteur, ici en bleu, un domaine sensoriel, en S1, un domaine auditif, sensoriel auditif, A1, un domaine sensoriel visuel qu'on appelle V1. Donc là, ce sont 3 aires sensorielles, et là, vous avez une aire motrice. Hein. Et ces aires sensorielles sont reliées aux afférences thalamiques, vous savez qu'on monte toujours par le thalamus, rappelez-vous la première diapositive, avec différentes régions du thalamus. Vous avez ici, par exemple, le thalamus dorsal qui innerve les aires visuelles primaires, le MGV, médial ventral, qui innerve les aires auditives. Vous avez ici le ventral postérieur qui innerve les aires sensorielles primaires et puis le moteur pour le ventre latéral. Hein. Donc, une projection, évidemment, on en a parlé souvent, du thalamus vers le cortex, mais aussi du cortex au thalamus. Et ici, les 4 aires qui sont les 4 aires principales. De nouveau, comme je vous l'ai dit, nous avons des cellules, 2 types de cellules. 80% des cellules qui viennent de la zone ventriculaire hein, et qui migrent le long des glies radiaires. Vous avez ici une couche 1 qui est un peu particulière parce que c'est une couche qui est composée de cellules qui exprime une molécule qu'on appelle la riline, qui attire, on le pense en tout cas, les cellules glutamatergiques qui migrent le long des glies radiaires, qui, elles, ont plusieurs origines. Elles viennent du lourlet cortical, elles viennent du subpallium, elles viennent du septum. Hein. Et puis, à partir des éminences ganglionnaires, médiales, latérales ou caudales, vous avez ces fameuses neurones GABAergiques, 20% des cellules, qui maintenant viennent aller s'intercaler au milieu des neurones GABAergiques. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est vrai pratiquement pour toutes les aires. Donc ça, ce n'est pas fonction du type d'air que vous avez. Alors, ce que je vois là, c'est des interactions géniques. De nouveau, vous avez dans... Ça, c'est l'ancienne bordure ANB, enfin, antérieure, qui maintenant s'appelle le COP, qui s'intitule du FGF8. Vous avez SP8, qui est ici aussi un facteur de transcription qui est exprimé dans cette région-là. Et puis, vous avez EMX2, qui est exprimé en gradient. Et vous avez des interactions, de nouveau, entre vos facteurs de transcription et vos facteurs de type morphogène, sur lesquels je ne vais pas insister trop longtemps. Voilà. Ce que je veux vous montrer ici, c'est les patrons d'expression de vos gènes de développement. Voici EMX2. Donc, qui est dans le cortex, est exprimé de façon plutôt médiane et postérieure. PAX6, qui est lui plutôt antérieur et plutôt sur les bords. Vous voyez, c'est un pattern qui est complémentaire à celui de MX2. Vous avez ici coupe TF1, qui est donc un de ces facteurs de transcription orphelins, un récepteur nucléaire. Et puis, vous avez SP8, qui lui aussi est un petit peu complémentaire. Et ce que je vous ai mis ici, c'est les interactions génétiques entre ces facteurs de transcription. Avec les différentes expressions, vous avez ici, mais ce sur quoi je vous demandais de faire attention particulièrement, et je reviendrai quand même sur coupe TF1 peut-être, c'est sur l'inhibition réciproque que vous avez entre PAX6 et EMX2. Hein. Et vous allez voir que cette inhibition réciproque joue un rôle très important dans la formation des patrons dans votre système nerveux. Et vous allez le voir à travers ces différentes mutations que je vous ai présentées ici. Donc, dans la zone sauvage, dans l'animal sauvage, Vous avez donc le moteur, le sensoriel primaire, l'auditif primaire et le visuel primaire, qui occupent en gros, évidemment c'est dessiné donc ce n'est pas exact, mais qui occupent en gros ce genre de position. Si maintenant je supprime entièrement EMX2, c'est-à-dire que je supprime l'expression de mon gène EMX2, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une grande augmentation, comme vous voyez ici, des aires motrices primaires, une grande augmentation et une postériorisation des aires sensorielles primaires. Puis, comme vous pouvez voir, mes aires auditives et mes aires visuelles disparaissent quasiment. Mais la taille totale de mon cerveau ne bouge pas. Je reste à taille égale. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé les bords, d'une certaine façon. C'est ce qui m'intéresse, c'est de bouger les bords dans mon système. Ici, je prends juste l'hétérozygote, c'est-à-dire que je supprime uniquement seulement un allèle de MX2. Vous voyez que j'ai le même principe, c'est-à-dire que je vais dans ce sens-là, je postériorise, mais moins évidemment que quand je retire les deux allèles. Donc c'est dosage dépendant. Enfin, je peux aussi surexprimer EMX2, c'est-à-dire mettre EMX2, un transgène, sous le contrôle de la nestine, donc qui entraîne une surexpression de EMX2 dans la zone ventriculaire. Et là, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant j'antériorise tout, c'est-à-dire que j'ai des grandes aires visuelles primaires, j'augmente, mais elles augmentent, ainsi que les aires auditives primaires, aux dépens de mes aires sensorielles primaires et de mes aires motrices. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bougé mes bords, mais vers l'avant. C'est-à-dire que j'ai fait un animal qui est évidemment tout à fait anormal. Je peux aussi supprimer PAX6, maintenant, aller dans l'autre sens. Je supprime PAX6, et qu'est-ce que je fais si je supprime PAX6? Eh bien, j'ai le contraire de ce que je fais quand je supprime MX2, c'est-à-dire que maintenant, j'augmente mes aires visuelles, mais je diminue mes aires, les autres, exactement comme quand j'avais surexprimé XMI2. D'ailleurs, surexprimer XMI2 ou diminuer PAX6, c'est pareil. Et puis, je peux surexprimer PAX6, et dans ce cas-là, je vais avoir très très peu d'effets, il se passe très peu de choses, j'ai une petite réduction de mes aires sensorielles. Par contre, je peux maintenant supprimer coupe TF1, et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai une grande avancée de mes aires motrices et que toutes mes autres aires diminuent. Et je peux diminuer SP8, et maintenant je vais avoir l'effet inverse. Donc, en jouant sur ces... Et ça, c'est des effets qui passent par la régulation de PAX6 ou MX2, comme je vous l'ai montré dans la diapositive précédente, mais c'était peut-être un tout petit peu compliqué. Donc, ce que je veux que vous gardiez comme message là, c'est qu'en jouant sur l'équilibre d'expression de mes gènes de développement, je vais déplacer les bords dans le développement, la fabrication de mon cortex. Et à taille totale égale. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que je ne change pas la taille de mon cortex. Alors, il y a un autre exemple de ce genre, qui est celui, évidemment, dont on a parlé souvent ici. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous en parler plus. Je pense que je garderai ça pour la semaine prochaine. Parce qu'on partira de là la semaine prochaine pour vous montrer comment, au fond, ça peut avoir des conséquences sur le plan physiologique. Parce que certaines de ces souris dans lesquelles on modifie l'équilibre entre ces facteurs de transcription peuvent aller jusqu'à l'adulte. Par exemple ici, je reviendrai dans le détail la prochaine fois, mais ici par exemple, quand je modifie le bord entre TX2 et GBX2 et que je peux modifier le nombre de neurones dopaminergiques parce que j'ai donné plus de place à la région TX2, c'est-à-dire que j'ai repoussé GBX2 vers l'arrière, j'ai une souris qui se développe. Elle a un cerveau presque normal. Et pourtant, sur le plan du phénotype, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez une souris ici qui a été manipulée génétiquement. On a bougé un bord. Qu'est-ce qui se passe si je la mets dans un open field? Normalement, une souris qu'on met dans un open field, au bout de 14 minutes, elle va roupiller dans un coin, surtout quand il y a de la lumière. Les souris n'aiment pas la lumière. Mais si elle est hyper dopaminergique, parce que j'ai simplement bougé le bord en manipulant les proportions respectives de mes deux gènes de développement, alors ma souris ne trouvera jamais le repos, c'est-à-dire que si elle est une femelle, elle n'ira jamais se coucher. Si c'est un mâle, il mettra du temps pour aller se coucher. Il y a quelque chose qui est lié au sexe, mais c'est pour l'instant pas vraiment explicable. Donc je reviendrai sur cette affaire la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.